Au quotidien, 5e édition.
Bonjour. Normalement, quand vous entendez ma voix, c'est Yvan Deslauriers au micro, c'est parce que je remplace Hélène Denis à l'émission Au quotidien. Mais à partir d'aujourd'hui, ça s'appelle Au quotidien, 5e édition. Je suis un des deux co-animateurs et je vous présente ma co-animatrice.
Merci, cher co-animateur.
Francine Forget.
Bravo. Alors, nous sommes habitués de nous rencontrer le vendredi, chers auditeurs, mais cette fois, ce sera avec plaisir que je le ferai avec Yvan. Dans cette nouvelle émission qui s'appelle Au quotidien, 5e édition, notre intention, c'est vraiment, évidemment, de continuer à faire de l'actualité. Donc, c'est pas la grande révolution, mais disons qu'on va le faire plus doucement. On va essayer de commencer à vous mettre en tête le fait qu'il ne reste que quelques heures avant le week-end. Mmh. Alors, voilà notre intention. Ceci dit, parfois, les intentions prennent le bord. Et ce matin, malheureusement, je dois commencer cette émission en interpellant Yvan, qui, je sais, est un fan de hockey, avec un tweet de Marie-France Bazot qui, je trouve, résume tellement bien la situation. Monsieur Guy Lafleur est parti jouer au hockey avec Mike Bossy.
Oui, ça a été un gros 7 jours, une grosse semaine. Mike Bossy est décédé, les deux sont décédés du cancer, 65 ans pour Mike Bossy et Guy Lafleur vient de partir, 70 ans. Moi, j'ai 65 ans. C'est un peu comme c'est le début de ma vie de jeune adulte qui s'en va. J'ai des souvenirs très clairs de buts particuliers où j'ai crié comme si c'était ma vie qui en dépendait. J'étais dans l'auto en m'en venant tantôt et ça m'a vraiment fait un choc. Je vais vous lire un texte, une partie d'un texte de Pierre Foglia. Vous vous souvenez, Pierre Foglia, dans la presse?
Comment peut-on l'oublier, Yvan?
Alors, Pierre Foglia, c'était pas un fan de Guy Lafleur. Il dit, mais tout cela pour vous dire, c'est en 1991, ce texte-là, au moment où Guy Lafleur prend sa première retraite. Puis là, vous avez juste à changer le départ pour la retraite pour le départ, puis ça refait la même affaire. Tout cela pour vous dire que si je n'avais jamais rencontré Guy Lafleur, je n'aurais pas une larme à ajouter à son départ, pas une amabilité obligée, salut l'idole, suivant. Mais j'ai rencontré Guy Lafleur il n'y a pas très longtemps et je peux témoigner ici de quelques particularités fort rares pour les gens de sa race, les surdoués du lancer frappé. D'abord, quand on se promène avec Guy Lafleur, sa statue de héros national ne nous suit pas, pas à pas. L'homme est sans majuscule, ni auréole, ni génie particulier, un citoyen modeste comme vous et moi. Je me souviens d'un matin d'entrevue dans sa Jeep, il allait s'entraîner, il m'a dit « Tu ne peux pas savoir comme je suis content d'aller pratiquer ». C'était après son retour, il lui avait fallu toutes ces années pour réaliser la chance qu'il avait de faire un métier qu'il aimait. Ce qui me fait dire qu'il n'a pas plus de génie que vous et moi. Il a appris très lentement les choses importantes de la vie. On l'a adulé longtemps pour des futilités, son lancer frappé, ses débordements hors l'aile. Aujourd'hui, et qu'il s'en va, je voudrais féliciter Guy Lafleur d'être devenu, malgré son lancer frappé, malgré ses débordements hors l'aile, d'être devenu, disais-je, son propre chef-d'œuvre. De loin, son plus bel exploit. Et pour moi, ce bout de texte-là résume tellement Guy Lafleur. Bon, oui, j'étais un fan de son lancer frappé et de son débordement à l'aile, mais l'être humain était aussi hors norme. Et oui, ma voix vacille un peu, puis c'est ça.
Mais c'est beau cette émotion, Yvan. Vous êtes en train de me la transmettre. Écoutez, je vais passer à autre chose, si ça vous dérange
oui,
pas.
Oui, non, mais justement, dans notre plan, on se disait, okay, c'est ce qui m'a frappé cette semaine, et vous, ce qui vous a frappé cette semaine, c'est le jour de la Terre.
Oui, parce que, vous savez, ces jours-là, hein, jour de la femme, jour de ci, jour de ça, à chaque année, on se dit, mais ça se peut pas qu'on en soit encore obligé à faire ça, mais pourtant oui. Et je suis arrivée sur un texte de la presse.ca signé Philippe Robitaille-Groux, qui a demandé à des professeurs qui sont voués à la cause environnementale qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement. Et 6 résolutions que je vous résume rapidement. La première, agir collectivement. On est toujours en train de dire que c'est la faute de l'autre et tout ça, mais des décisions collectives, on peut en prendre. S'affranchir de la dépendance à l'auto. Bon, on ne cesse de le rappeler. Là, on se donne bonne conscience avec nos autos électriques qui, oui, sont plus nombreuses, mais ce n'est pas la multiplication, c'est pas si phénoménal que ça. Donc, on continue à utiliser notre voiture à essence, des voitures de plus en plus grosses, comme on dit, hein, n'est-ce pas? Et particulièrement les Québécois, on en a déjà parlé ici de cette situation-là. Considérer, troisièmement, la biodiversité dans son ensemble. Le souhait, c'est que les gouvernements comprennent que la protection de la biodiversité, ça dépasse simplement la protection d'une espèce. Il faut aller avec des idées globales, des plans globaux, et intervenir, encore une fois, collectivement et sensibiliser les populations à l'écologie. 4. Réfléchir à long terme. Et on a souvent l'impression, malgré toutes les bonnes résolutions qu'on peut prendre dans les grands sommets, que cette réflexion-là est quand même à courte vue, dans le sens où on a des objectifs souvent tellement subjectifs et tellement lointains de nous que ça donne pas lieu à des actions stratégiques. Cinquièmement, et là, un petit sourire en coin, tourner le dos aux énergies fossiles.
Mm-hmm.
Alors, tout est là.
Après la décision de la semaine dernière, oui, c'est
voilà.
Un peu ironique.
Devenir des chefs de file, alors ça prend du leadership. Ça prend du leadership au niveau, évidemment, de gens qui sont capables de nous sensibiliser, de nous amener vers autre chose en matière d'écologie, mais aussi en ce qui a trait au plan économique, donc des investissements qui permettent justement de nous amener ailleurs dans cette réflexion et dans cette action par rapport à l'environnement. Jour de la Terre, il ça a l'air que la Terre a continué de nous aimer malgré tout ce qu'on fait parce que son interaction avec l'au-delà fait que ce week-end, nous allons avoir quand même une météo fort acceptable.
Quel lien, madame, quel lien!
Le bridging, comme on disait, en relations publiques. Donc, aujourd'hui, il y a du soleil qui s'en vient. Il va y avoir un peu de nuages, c'est pas grave. Un beau 10 degrés. Samedi, ça va être merveilleux. Pas trop chaud, par exemple. 6 degrés. On sort nos petites laines.
Ouais.
Mais on peut quand même mettre notre beau manteau de printemps. Et on peut sortir. Dimanche, un peu plus chaud, mais malheureusement, c'est un peu couvert. Mais ça ne nous empêchera pas de sortir. En fait, il n'y a pas de grosses précipitations qui sont annoncées pour ce week-end qui va nous amener, semble-t-il, vers presque l'été lundi.
Lundi, je sors mon vélo.
Bravo!
Il annonce 20, je pense, quelque chose, Jean.
18.
18, OK, mais pour une journée seulement. Alors, pour le reste de l'émission, c'est un peu la suite de... au quotidien, mais un peu aussi de différence. Alors, il va y avoir les unes Montréal que Francine va nous donner, et il va y avoir les unes régionales, et là, on va appeler Monique Kirois qui est dans l'Estrie, et elle va nous faire un petit topo pour ce qui se passe du côté des cantons de l'Est. Ensuite, on va parler, il va y avoir nos chroniqueurs, il y a Serge Hamelin qui va nous parler de consommation. Et comme on s'en va vers la fin de semaine, café expresso et vin gin québécois. Ça vous donne des idées quoi faire pendant la fin de semaine. Ensuite, je vais parler à Francine, on va reprendre nos chaises qu'on est habitué de prendre et on va parler de technologie. Et en retour vers 10h30, vers 10h30, Marcel Dugas va parler avec Francine d'histoire. Et je vais parler avec Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Elle va nous dire qu'est-ce qui se passe dans son association pour la fin de semaine qui s'en vient. on passe avec une chanson, puis on en profite pour dire un beau bonjour. Je vous ai présenté ma co-animatrice, mais je vous ai pas présenté Mathieu qui est à la console. En fait, c'est lui.
C'est moi, ça.
Oui, c'est toi. Et c'est lui qui vraiment va tenir, qui tient l'émission. Et vous savez que j'aime choisir la chanson du jour avec un certain thème. Alors, on est un duo. Je vous présente donc ceci.
J'aurai 100 ans. Toi, peu moi. Je m'allongerai au chaud. Dans le creux de tes cernes. Comme un retour au verso, comme pour mon dernier repos. Je colmaterai l'hiver de mon rire le plus doux. Je compte terrible ou commissure des paupières. Je relirai tes rides autant de souvenirs qui ne sont qu'à nous. Même si tu l'as.
Cher Yvan.
Merci, mon cher Mathieu.
C'était J'aurai 100 ans, chanté par Brise, et Louis-Jean Cormier, bien sûr.
Deux artistes que je vénère.
Merci beaucoup pour cette belle chanson. Avant de faire le tour des unes telles que prévues, on vient d'apprendre que François Legault a souligné vendredi la perte d'un géant et qu'il envisage la célébration de funérailles nationales si tel est le souhait de la famille. Pour souligner le caractère exceptionnel de la carrière de Guy Lafleur. Continuant avec La Presse Plus, puisque j'ai pris cette manchette sur La Presse, la mise à jour de La Presse Plus. Ce matin, en une, on nous parlait de francophones qui sont sous pression au Canadien national. Alors hier, on a beaucoup parlé finalement de l'absence de francophones au conseil d'administration du Canadien national. Mais les francophones sous pression font référence à une autre situation qui est vécue au Canadien national. C'est-à-dire le fait que parfois, disons que le français n'est pas nécessairement présent où il devrait être. Mm-hmm. Et cette situation a été exprimée par une lettre que le syndicat a fait parvenir à Mme Tracy Robinson, qui est la PDG du Canadien national. Ils sont inquiets du déséquilibre linguistique au sein des activités de l'entreprise à Montréal. Et il parle particulièrement de la gare de triage de Taschereau, avec plusieurs arrivées d'employés qui sont unilingues anglophones pour combler, semble-t-il, une pénurie de personnel qui doit être vécue, j'imagine, là comme ailleurs. Et en fait, on parle même d'une situation où, à un moment donné, on a fait venir un employé bilingue qui a joué le rôle de traducteur dans une équipe afin de permettre à un train de réaliser certaines manœuvres, allègue la lettre que la presse a obtenue. Donc, ça dépasse, je dirais, la question simplement de principe, mais ici, on est dans une question de sécurité mm-hmm. également. Mm-hmm. À la une de la presse, toujours, le départ de Véronique Yvon. Alors, on en a beaucoup parlé. Ce qui est intéressant dans cette presse plus, c'est que finalement, il y a un papier de Tommy Chouinard qui compare un peu Dorion et Yvon. Ça s'appelle « Entre Dorion et Yvon ». Et ça montre que finalement, pour une, c'était peut-être difficile de faire de la politique telle qu'on la pratique à l'Assemblée nationale, mais que pour l'autre, Mme Yvon, en l'occurrence, c'était vraiment possible d'arriver à ses fins. Il fallait avoir, je dirais, cette finesse pour profiter des occasions qui se présentaient.
Oui, elle a trouvé les ponts.
Oui, elle a trouvé les ponts, effectivement. Il y a aussi un papier de Patrick Lagacé qui fait largement l'éloge de cette députée qui, de toute façon, hier, a fait l'éloge de nombreux tweets et autres messages sur les médias sociaux.
Oui, de tout parti confondu.
Oui, oui, c'est ça. Le NPD amène le Saint-Laurent à l'ONU. Alors aujourd'hui, il y a effectivement le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, qui va défendre l'idée d'un statut juridique pour le fleuve aux Nations unies. Alors c'est rapporté encore une fois en une de la presse plus. Si on regarde maintenant du côté du Devoir, alors dans le Devoir, la grosse manchette porte sur le nombre de soignants qui sont encore mal immunisés et on parle de 31% des soignants québécois qui ont toujours pas reçu leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. C'est Isabelle Paré qui nous le rapporte dans le Devoir.
J'ai manqué le pourcentage?
31%, donc 31%, en fait, c'est 3 sur 10, oui, parce que ce qu'on dit dans le fond, on revient toujours sur la même chose, c'est que si on n'a pas la troisième dose, on n'a plus l'immunité, elle diminue, forte, ouais. Et voilà, c'est une situation qu'on rapporte alors qu'on sait que depuis quelques jours, on ne cesse de nous répéter qu'il manque toujours de 10 000 à 11 000 soignants oui. dans le réseau. Du côté de l'Ukraine, toujours en une du Devoir, c'est l'enfer sous terre. Donc, on sait que à l'usine de Azovstal, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a des bombardements quasi incessants et c'est devenu un lieu où les gens se réfugient, mais dans des conditions terribles où il y a évidemment manque d'eau potable, de nourriture, de médicaments. En fait, Mariupol, je m'excuse, est certainement dans une situation où il y a une catastrophe humanitaire vraiment importante. Et c'est rapporté par le commandant Volina, qui a parlé au Devoir, en l'occurrence Patrice Sénécal. District 31, bien évidemment, on en a beaucoup parlé. Dans Le Devoir, on le souligne que c'est le cœur brisé, parfois en larmes, que des adeptes ont fait leurs adieux hier soir à l'équipe du commandant Chiasson, non seulement à cause de l'émission qui ne revient pas, mais aussi à cause de tous ces groupes sociaux qui se sont formés. C'est Annabelle Caillou en Une du Devoir qui le rapporte. Enfin, dans le Journal de Montréal, je vais vous faire part d'une nouvelle qui, en tout cas, moi, m'a étonnée beaucoup ce matin. C'est un prof en histoire connu qui est blâmé pour plagiat. Alors, il s'agit de l'historien Laurent Turcot qu'on connaît, qui intervient régulièrement.
Dans plusieurs émissions, oui.
Oui, autant à TVA qu'à Radio-Canada.
Mais là, il n'est pas juste accusé, il est blâmé.
Il est blâmé, en fait. C'est à l'été 2021 qu'il y a une plainte anonyme qui a été déposée au Conseil de recherche en sciences humaines. Le Conseil de recherche, tel que le prévoit le processus, a envoyé cette plainte à l'UQTR, qui a formé un comité, et ce comité a rendu verdict en octobre, et il y a effectivement eu manquement à la conduite responsable en recherche. En fait, c'est qu'il y aurait certaines informations qui auraient dû être contenir une source, je dirais ça comme ça, et ça n'a pas été fait. Il a été blâmé, mais en fait, il n'a pas été sanctionné parce qu'on dit que ce n'était pas de la malveillance de sa part. Et son éditeur, puisque c'est un livre bien précis qui est visé, son éditeur dit, Gallimard, que les corrections vont être apportées dans la réédition.
Alors, on continue dans les unes, mais maintenant les unes régionales, et on s'en va du côté de l'Estrie, et vous allez entendre une voix que vous connaissez et que je connais beaucoup et j'aime bien. Bonjour, Monique.
Bonjour, Yvan. Bonjour, Francine.
Bonjour, Monique.
Monique Quirois, qui va nous parler des unes du côté de l'Estrie.
Oui, alors écoutez, deux sources m'ont inspiré ce matin. La Tribune numérique de Sherbrooke. Vous le savez, c'est un quotidien membre de la coopérative nationale d'information indépendante,
oui.
Et un journal d'actualité web qui s'appelle L'Esprit Plus. Alors, à la une de la Tribune, sous la plume de Claude Laplante, eh bien, écoutez, on revient sur le lac Mégantic. 9 ans plus tard,
hein? Ben oui.
La coalition des citoyens et organismes engagés dans la sécurité ferroviaire du lac Mégantic, eh bien, écoutez, elle retire, la coalition, son appui au projet de voie de contournement ferroviaire proposé actuellement par Transport Canada et par le Canadien Pacifique. Pourquoi? Eh bien, l'organisme considère que ce projet n'a plus la même envergure depuis l'achat par l'ECP de la voie ferrée qui traverse la région du lac Mégantic. Cet achat s'est fait en 2020. L'ECP, imaginez, veut faire une autoroute de transport intercontinentale de matières dangereuses à haute vitesse avec des trains de 200 à 260 wagons. C'est 2 fois plus long, plus lourd, plus rapide et transportant 2 fois plus de matières dangereuses que par le passé. Ceci étant dit, la coalition des citoyens demeure favorable à une modification de ce tracé de voie de contournement à l'extérieur du parc industriel et des zones résidentielles. Donc, c'est encore à suivre.
Eh mon Dieu, puis on parle de 9 ans plus tard, là. Hein?
Oui, c'est ça, exactement. Je tenais à le souligner parce
oui,
que
c'est le point important.
A lieu le 7 juillet 2013. Deuxième nouvelle à retenir. Écoutez, une femme en couple sur 6 se trouve en situation de violence conjugale. C'est un article de Cynthia Laflamme, toujours pour la Tribune numérique. C'est la docteure Mélissa Généreux de l'Université de Sherbrooke qui a dirigé une étude qui a été réalisée par 3 étudiantes en médecine. Elle ne s'attendait pas aux résultats, des résultats d'une telle ampleur. Pour chaque féminicide, plus de 16 000 femmes vivent un climat malsain à la maison. On le sait, la pandémie a exacerbé la détresse psychologique. Ben, le docteur Généreux voulait avoir un aperçu plus clair de l'augmentation des cas de violence conjugale, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique ou verbale.
Mm-hmm.
Avant la pandémie, la violence physique et sexuelle avait déjà été calculée, mais pas celle qui relève plus du côté psychologique et verbal. Alors, cette étude a comme particularité de faire le tour de la province du Québec. Alors, pour vous donner une petite idée des résultats, l'indice de violence conjugale pour l'Estrie est de 15,1% comparativement à 22,5% pour Montréal. Okay. Et la moyenne provinciale est de 17,6%.
Ah, quand même!
Oui, quand même. Je vous dirais maintenant que l'Estrie Plus souligne le bon coup de centraide Estrie qui a réussi à mobiliser le milieu et rassembler les ressources pour contribuer à améliorer la condition de vie des personnes démunies et vulnérables. Alors, Centraide Estrie a collecté 2 532 438 $. Ils ont dépassé leur objectif qui était de 2 225 000. Alors, on les félicite. Mm-hmm. C'est un bon coup.
Surtout à une période qui est quand même difficile pour ramasser de l'argent.
Exactement, c'est exactement, on le souligne, c'était un tour de force dans le contexte économique actuel. Alors, on sait qu'ils vont appuyer, bien sûr, tous ces milieux pour éviter la pauvreté et l'exclusion sociale. Peut-être que vous, comme vous préparez le week-end,
oui.
Jean et Francine, ben je vous dirais qu'au Théâtre Granada, qui est une salle de concert de Sherbrooke sur la rue Wellington, eh bien, il y a Vincent Vallière ce samedi 23 avril.
Oh, quand même!
Quand j'ai vérifié, il y avait encore des billets au coût de 40 $. Donc, vous pouvez aller en ligne pour vérifier tout ça.
Puis on peut aller prendre un verre de vin chez vous?
Ah ben, vous pourriez très, très bien. Vous m'envoyez un petit texto avant. Puis, et la semaine prochaine, ce sera Tire le Coyote. Donc, on accueille aussi de belles personnes en Estrie.
OK, ben je loue une chambre chez vous. Puis, on s'en reparle de ça. Merci beaucoup, Monique, pour ce beau survol en Estrie.
Ben, ça fait plaisir, au plaisir.
Moi, du côté de Québec, dans le soleil, j'ai noté une sortie du maire Marchand qui souhaite que le troisième lien, la voix de Québec doit être entendue. Il souligne que puisqu'on relie deux rives, dont Québec, il y a des préoccupations de citoyens, des préoccupations d'intégration urbaine. Nécessairement, on ne peut pas faire sans Québec. Je pense que la voix de Québec doit être entendue. Puis il me semble que j'ai entendu quelque chose de semblable à Montréal pour ce qui est de la construction dans l'Est là, du REM. Alors, les maires veulent vraiment s'impliquer dans les projets de transport. Du côté de l'Outaouais, j'avais une nouvelle qui touchait les infirmiers et les infirmières. Mais je pense que je vais aller du côté de Tursault. Il y a 70 ans, il y a un petit bonhomme qui avait un rêve de jouer au hockey et il l'a rempli magnifiquement. Il est décédé aujourd'hui. Guy Lafleur nous a quittés. Alors, chapeau à Guy Lafleur. Il nous reste 10 secondes. Dans la prochaine demi-heure, on reçoit M. Serge qui va nous parler de consommation. À bientôt.
Vous écoutez Au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
Tes plus beaux jours, autant à jamais perdu, te reste l'amour. À la vie qui s'en va, que ton cœur n'ait pas de regrets, du vrai bonheur ici. C'est là le secret. Ouvre tes yeux à la vie. Si tout n'est pas merveilleux, elle est toujours plus jolie quand on décide d'être heureux. Autant qu'il autant à jamais perdu ton cœur de 20 ans. J'ai vu mille paysages dans de lointains continents. La mer m'a repris mes voyages, autant en emporte le vent. Autant qu'il ne revient plus, que te restent tes plus beaux jours. Autant à jamais perdu te reste l'amour.
Vous venez d'entendre la dernière chanson de District 31. Ça a été chanté par Roxane Fillion. Roxane Fillion est choriste en direct de l'univers. Elle a les cheveux roux en général. Ça a été composé par Jean Lapointe et Raymond Lévesque. Alors, mettez ça dans vos listes de musique. Les fans comme moi de District 31, ça va rejouer souvent. Francine, tu avais quelque chose pour compléter ce que j'ai dit tantôt.
Oui, bien, aujourd'hui, hein, c'est la journée Guy Lafleur. Donc, le petit gars de Turceau, Pierre-Yves Laure, a un tweet là-dessus. Il est en route vers le ciel, à vive allure sur l'aile. Il décroche son boulet entre les jambières du gardien du paradis. Et le but! Rest in power, play flower.
Oui. Merci beaucoup. Je me tourne vers Serge Hamelin, que j'ai juste nommé Serge tantôt parce que j'étais un petit peu...
C'est déjà pas mal, hein?
Oui, ben au moins j'avais le bon nom. Ça avait été ma mère, vous aurez baptisé peut-être autrement.
Okay.
Je vous dis ça. Alors, vous savez que notre émission Au quotidien, 5e édition, mm-hmm. avec Francine Forget, avec Mathieu et avec Yvan, on veut faire le lien entre la semaine et la fin de semaine. Et Serge, vous nous avez amené tellement un beau sujet pour la fin de semaine, les machines à café espresso,
ouais.
et les gins québécois.
Tout à fait, oui.
Pas nécessairement ensemble.
Non, un après l'autre. Est-ce qu'on y va avec le gin au début ou si on y va avec le café?
Commençons
au début?
Par le matin.
Le matin? Alors,
oui. Donc le gin.
Le matin. oui, les gins le matin. Là. Mm. Alors, bon, écoutez, dans la revue Protégez-vous, il y a toujours des tests. Moi, je me gave de tout ce qu'il y a dans la revue Protégez-vous.
Et, ah, ouais, oui, je pensais que vous gaviez de café espresso.
Oui, et une tasse seulement le matin.
Bien tassé.
Et ça donne que j'ai la meilleure machine selon les tests.
Oh, on est-tu heureux dans ce temps-là?
Ah, monsieur Dupont.
Quand on fait un achat, puis après ça, on regarde une revue spécialisée, puis on a fait le meilleur achat.
Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Alors, aimez-vous le café?
Non.
Bon, ben alors...
Francine Blaine, par exemple.
Oui, hein, c'est bon.
Beaucoup, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Alors, quand même. Alors, pour savoir quelle cafetière à espresso accomplisse bien ses tâches, on a mis à l'épreuve 29 modèles, dont 18 manuels et 11 automatiques. Alors, ça, c'est la revue Protégez-vous qui a fait des tests.
OK.
Alors, un groupe de 4 réparateurs de cafetières a également aidé à déterminer si les cafetières étaient réparables et si oui, à quel coût. Alors, ils ont fait des tests avec des spécialistes en goût de café et puis avec des commentaires, de quelques commentaires de 3000 répondants issus de panels. Alors, c'est sérieux, là.
Ah, on rit pas, on
le
rit pas.
Le café, on rit pas.
Mais moi, j'aime pas le café, mais on rit pas.
Bon, d'accord, alors, parfait. Mais, je suis désolé, hein, pour le café, j'aurais pu choisir le thé.
Non, c'est très, très, c'est très bien.
Oh, mais là, faut pas m'ignorer, là, quand même.
Ah, non, bon, d'accord.
Puis moi, ma petite histoire personnelle, j'ai été 35 ans fonctionnaire fédéral et je n'ai bu aucun café. Je me demande encore pourquoi la fonction publique m'a gardé pendant tout ce temps-là.
Oui, ben là, c'est, moi, je ne sais pas.
Ben, tu ne coûtais pas cher en café.
Je ne pas cher en café, certain.
Alors, voulez-vous une manuelle ou une automatique?
Ben, c'est quoi la différence entre une manuelle et une automatique?
Il y a à peu près 2 000 $ de différence.
Oui, en termes de prix, OK.
C'est
mais
hallucinant. Ben, c'est parce que la manuelle offre une grande flexibilité. Elle nous permet de contrôler plusieurs paramètres. C'est un peu comme une auto, hein?
C'est ça.
Alors, dont la force de compression et le temps d'extraction du café, et on peut ainsi produire des expressos qui répondent au goût de chacun. Ça exige un paquet de manipulations.
Okay.
Pas tellement. Hein. Il faut remplir le filtre.
Ah, oh, c'est donc... ça le truc, puis on,
oui, c'est
on remplit
ça,
un
oui,
petit
oui. Compresser
contenant.
Compresser le café, un... oui. Oui, le porte-café, là.
Mais... Oui, oui, oui.
C'est ça. Et puis, surtout, une bonne connaissance de la machine. Il est important de prendre le temps de tester plusieurs combinaisons de café, parce qu'il y a plusieurs sortes de café, arabica, colombien, etc., le noir, le brun, etc.
Francine, et vous, puis, votre...
Bon. On est dans le noir. Chez nous, on est dans
vous,
le noir.
Moi, j'adore le arabica noir. Aïe, 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 aïe. À retenir, les cafetières manuelles sont en général moins chères que les automatiques, et parmi les modèles manuels testés, l'un des meilleurs choix est vendu à 485 $.
OK.
Et on a aussi trouvé un bon choix, je ne la connaissais pas celle-là, au coût de 360 $. Donc, c'est quoi le meilleur choix à 485 $?
Roulement de tambour.
Eh bien, c'est la Breville.
Ah, la Breville.
Oui, la Breville, suivie de la Gaggia. À 600 $. Allons-y pour la Breville à 485 $ et qui, elle, pour le goût, c'est plus, la facilité d'utilisation, c'est plus, la rapidité, c'est plus, le mousseur, c'est plus. Ah, bref, ce sont des plus dans tous les secteurs de la machine.
Okay.
Maintenant, voulez-vous avoir une automatique?
Une automatique, là, c'est avec les capsules? Puis on
ceux sort, qui ne savent pas conduire manuel, là, ils conduisent automatique.
Ben, moi, en café, je serais automatique, je pense.
Bon, ben alors, 2295 $, la meilleure machine à café automatique.
Elle a-tu un nom italien?
Elle s'appelle Jura ENA8. Et puis, il y a le DeLonghi, on voit l'annonce avec Brad Pitt, là.
La DeLonghi, il faut qu'ils payent pour Brad Pitt, eux autres. Là.
Elle est 1275 $.
Oh,
avec une note de 83%. Alors voilà, ça, c'est parmi les meilleures machines à café que vous avez.
Il y a puis les Nespresso de ce monde, ils sont-ils là-dedans?
Les Espresso?
Les Nespresso.
Non, on n'en parle pas des Nespresso aujourd'hui.
Ah, OK.
Éventuellement. On parle juste des machines, là.
OK, hein? OK.
Mais c'est le jour de la Terre, alors on parlera pas des Nespresso et compagnie qui parfois disent que c'est recyclable, mais il y a toujours quelqu'un pour les contredire.
Ah, c'est quelque chose, hein? C'est un monde, là. Maintenant, comme la moitié du temps est passée, on vient de parler de café, alors on va tomber dans le gin. Alors,
je pense tomber, c'est après le gin.
Alors, allons-y dans le gin. Et une chose que je ne savais pas, c'est que le gin vient du genévrier.
Oui.
Hein, l'ingrédient de base.
Oui, oui.
Avec des aromates. Alors là, on met les aromates que l'on aime bien le mettre. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, ça, je ne savais
là, le
pas.
Québec se démarque là, de façon
c'est
importante.
Ouais. En 2017, l'évaluation incluait presque tous les produits offerts à la SAQ, soit 13. Cette fois-ci, on en a répertorié plus de 130 fabriqués par plus de 50 producteurs différents au Québec.
On parle d'une augmentation de multipliée par 10.
Oui, c'est quelque chose. Hein? Et un excellent gin, notamment, doit se démarquer par son équilibre, des arômes fins et prenants de genièvre, lesquels peuvent se traduire par des notes d'épices ou de conifères, auxquelles se greffent une bonne note d'agrumes et assez souvent des nuances poivrées. En bouche, cet excellent dry gin, en plus d'être fin et parfaitement équilibré, sera par ailleurs bien sec, décrit M. Marc Chapelot.
Et vous en avez apporté? Non.
Alors là,
pas d'échantillon ce matin?
Alors là, on a testé les gins et résultat, les gins s'en sortent bien avec des notes variant de 74 à 92% et pas moins de 15 produits obtiennent une note de 80% et plus, et notamment les très bons choix qui coûtent moins de 40 $ la bouteille.
Mmh.
Alors au Québec, on fait d'excellents gins et celui qui arrive en première position...
Un autre roulement de tambour.
Oui. C'est le O'Dwyer Radoun. Radoun.
Okay.
R-A-D-O-U-N-E. Alors, allez savoir pourquoi, d'où vient le Radoun.
Il doit avoir une histoire là-dessus.
Il doit avoir une histoire parce que c'est le meilleur.
Oui.
Et alors, la pastille de goût à la SAQ, c'est le Forestier Boréal. Alors que le Artist in Residence... C'est le deuxième, à 33 $. Lui, il est fruité et c'est préparé au Québec. Alors, il y a des différences. Il y a le Menot Gin aussi et le Romeo Gin qui sont bons également, entre des notes de 92% et 86%. Ce que je voulais vous mentionner, je ne sais pas si j'ai le temps, c'est que il y a les gins qui sont d'origine Québec, préparés au Québec et embouteillés au Québec. Et naturellement, il y a des différences. Le produit entièrement fabriqué dans la province, du grain à la bouteille, la grande majorité des ingrédients doivent venir du Québec, incluant l'alcool et sa matière première.
Okay.
Vous savez que dans préparé au Québec, ce n'est pas d'origine Québec. De façon générale, l'alcool utilisé pour fabriquer le produit provient d'ailleurs et souvent de l'Ontario. Allez savoir pourquoi. Et puis, en bouteille au Québec, cette catégorie est assez large. Elle peut englober des produits faits ailleurs et embouteillés ici, etc., etc. Alors, l'embouteillage, c'est différent de l'origine Québec.
Excellent.
C'est bon?
Je vous donne deux défis pour une prochaine fois. Pas nécessairement la prochaine, une prochaine fois. Je voudrais que, bon, on a parlé des machines Nespresso, là, si jamais vous, de type Nespresso là, avec les capsules. Fait que j'aimerais ça savoir un petit peu qu'est-ce que les revues de consommation en pensent.
Si on parle de revues, c'est ça, si j'arrive à les trouver, par exemple, dans la revue Protégez-vous.
Et les gins sans alcool, parce que...
c'est la prochaine page. Alors, j'en parlerai à notre prochain rendez-vous. Il y a à peu près 10 pages de gin ici. Là.
OK. Puis ça, on peut déguster ça même le matin.
Ah! Enfin, ceux qui aiment ça.
Excellent. Merci beaucoup, Serge.
Bon coup, oui.
Oui, c'est ça. Quel beau lapsus.
Oui.
Et on se reparle vendredi prochain.
Oui, très bien.
Au revoir.
Au revoir.
Bye.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Qui chantait la Marelle.
Et là, on revient dans nos anciens rôles où, Francine, vous avez préparé des textes par rapport à la technologie.
Bien oui. J'étais incapable de ne pas le faire.
Il fallait quand même mettre les pieds dans nos pantoufles confortables, un petit peu.
Je sais pas si c'est ça, Yvan. Je pense que c'est plus le fait que c'est très important pour moi. J'ai parfois eu des commentaires aussi positifs.
Oui.
Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Et malgré tout ce qu'on dit dans les médias, souvent on répète toujours les mêmes affaires. Okay. Donc, il y a plein de nouvelles qui ne sont pas nécessairement accessibles à tous. Et je trouve que c'est important d'en parler.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Alors là, on commence avec... J'ai entendu ça cette semaine, une nouvelle application ou quelque chose qui est déjà en place, le BeReal.
BeReal. En fait, c'est pas nouveau.
Okay.
Le titre de l'article, c'est drôle que je vous dise, on en parle souvent à peu près toujours de la même chose dans les médias parce que je vais m'appuyer sur un article de la Presse Plus. BeReal, un engouement réel. Et c'est Sylvain Sarrazin qui est l'auteur de cet article-là. Pourquoi il en parle, c'est que cette application qui a été lancée en 2020 n'était pas particulièrement, je dirais, populaire auprès des Canadiens. Je vais parler des Canadiens parce que les Québécois, ça commence tranquillement. Mais comme là, ça, les choses commencent à changer, on a cru bon, évidemment, de revenir sur cette application-là. En fait, c'est un réseau social.
Ouais, ça ressemble un peu à Instagram, mais...
C'est Instagram, mais en fait, sans être Instagram. Instagram,
c'est
le visuel porté à son maximum. C'est-à-dire que tout est stagé, comme on dit bon français.
Oui.
Dans le cas de BeReal, c'est complètement l'inverse. En fait, le but premier de cette application-là, c'est l'authenticité.
OK.
Et ça a marché très fort en Europe. En Amérique du Nord, ça s'en vient très bien. Et comme je vous disais, Canada a emboîté le pas et on se dit que ça devrait, dans pas trop longtemps, être aussi très populaire au Québec.
OK. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de BeReal?
Bien, en fait, là, vous n'avez pas le temps de vous préparer.
OK.
À un moment donné... Si vous êtes sur la plateforme, vous recevez un message. Et là, on vous dit « Go, c'est le temps. » Là, tu vas poster quelque chose.
OK, ça peut arriver maintenant, là, on est en train de parler, là.
Oui, ça pourrait arriver là. Et là, à ce moment-là, je vous abandonne. Et
oui.
je fais ce que je veux faire, là, sur BeReal.
OK, OK.
Et c'est partagé. Alors, quand je vous dis que c'est complètement différent d'Instagram et de TikTok, c'est que, justement, c'est l'instantanéité. Donc, okay. On n'a pas le temps de réfléchir plus que ça, puis de, je dirais, de préparer une mise en scène.
Puis là, le signal, il vient d'où en ce moment-là?
Mais c'est un message qui vient du réseau, il nous écrit. Okay.
Puis ça, c'est dans un temps aléatoire.
Bien, en fait, il ne vous le dit pas, là, parce que justement, s'il vous le dit, vous allez vous préparer.
Oui, je sais.
Bien, c'est ça.
OK.
Alors, depuis le mois d'avril au Canada, je vous disais que ça commençait à s'implanter. Là. C'est le réseau social qui a le plus progressé dans l'App Store au Canada. Donc, on peut comprendre que bientôt au Québec, on devrait aussi être adepte de ça. Quand je dis aussi à qui ça s'adresse, c'est principalement de la jeunesse. C'est principalement des jeunes qui adhèrent.
C'est presque moi.
C'est oui, des jeunes étudiants. Vous vous reconnaissez dans le portrait, n'est-ce pas?
J'ai déjà été jeune étudiant.
Oui. Alors, c'est très populaire. Et est-ce que ça va continuer à être intéressant? On ne sait trop. Évidemment, il y a quand même des bémols. Au-delà du fait que c'est intéressant parce que, justement, on adhère à ça puis on est dans la spontanéité, il reste que sur le plan technique, il y aurait eu des bugs. En plus, c'est que, évidemment, c'est pas toujours intéressant de voir une photo qui est pas léchée ou un message qui est un peu tout croche. Sur une plateforme. Déjà, on en voit particulièrement...
Dans Instagram, il y en a quand même beaucoup. Ouais.
Ben, sur les messages, mais pour ce qui est des photos, en général, on se force pas mal sur Instagram et sur TikTok. Alors, c'est sûr que ces choses-là font qu'on peut avoir des doutes sur le fait que cette application se taille une place importante dans le décor numérique.
OK. Et là, on parle d'une autre application. Celle-là, c'est pour trouver des personnes qui se cherchent.
Des personnes déprimées. C'est pour identifier des personnes déprimées.
Okay.
C'est une intelligence artificielle qui repère les internautes déprimés et on dit avec une redoutable efficacité.
Je suis Baba.
Baba. Alors, Jean-Yves Alric en parle sur le site pressecitron.net. Ça a été relayé sur l'infolettre de Bruno Guglielminetti de mardi dernier.
OK.
Alors, comment on fait
pour trouver une personne
trouver
déprimée?
Ça? Alors, ce qu'on a fait, en fait, c'est des chercheurs de l'Université Brunel de Londres et de l'Université Leicester. On a commencé par analyser des profils Twitter d'un certain nombre de personnes pour mettre au point cet outil. Ensuite, les scientifiques, à partir de ça, ont agencé les algorithmes à partir d'une base de données qui comprenait notamment le contenu des messages sur Twitter, les heures de publication, le nombre de followers, le contenu comme tel et des informations supplémentaires qui pouvaient avoir des liens avec la santé mentale des utilisateurs. Et cet outil-là a obtenu un taux de détection de près de 90 % des cas de dépression.
OK, mais avez-vous quelques détails précis sur, mettons que je ne file pas, là, qu'est-ce qui arrive dans ma machine à ce moment-là?
Bien, qu'est-ce qui arrive dans la machine, là, ça, c'est une autre chose. En fait, quand on détecte, après ça, il faut passer à l'action. Évidemment, passer à l'action, c'est certainement pas l'intelligence comme telle qui va le faire.
Okay.
Quoiqu'elle peut, à partir de cette précision-là, elle peut vous orienter, peut-être vous dire que vous devriez aller rencontrer quelqu'un.
Okay.
Mais en fait, pour le moment, ce qu'on veut, c'est plutôt repérer les cas et suggérer qu'il pourrait y avoir un problème de santé mentale. Là, je vous dis ça avec beaucoup de réserve, là, comme vous le sentez, parce que c'est délicat, là. C'est délicat. Qui peut poser ça? Moi, je vous dirais, ce qui est peut-être intéressant, c'est une espèce d'autodiagnostic. Par ailleurs, comme d'habitude, il y a beaucoup, beaucoup de réserves parce que cette IA-là, cette intelligence artificielle, pourrait permettre à des employeurs, des services de police, etc., d'enquêter sur un individu. Alors, comme d'habitude, il y a toujours des petites réserves, mais c'est là.
OK. J'espère que vous allez nous en reparler parce que je trouve que le sujet est important. Mais ça soulève plein de questions dans ma tête. Donc, j'imagine que je reçois un message de l'application qui dit peut-être que vous devriez consulter, je ne sais pas.
Bien, peut-être pas consulter, mais peut-être dire qu'on a décelé certaines choses.
OK, puis que vous devriez peut-être faire le test d'auto-machin.
Mais on est en peut-être, là.
OK.
Alors, du côté des paractualités, Yvan, je vous parle des ailes pour la vie. C'est en fait une grande course qui n'en est pas à ses premières années.
Mm-hmm.
En fait, j'ai compris que ça existait depuis 2014, mais d'année en année, ça semble prendre de l'ampleur et de façon vraiment importante.
Une course à pied?
Alors, c'est une course, en fait, on peut la faire un peu comme on veut. On peut la faire un peu comme on veut parce que certains la font à fauteuil roulant, d'autres à pied. Et la totalité des frais d'inscription sont reliés directement à la Fondation sur la moelle épinière.
Oh, d'accord.
Alors, c'est une course contre soi-même, finalement.
Oui, oui, dans toutes ces choses-là, oui, effectivement, c'est des choses contre soi-même, pour le plaisir, beaucoup. Et on va recevoir quelqu'un, justement, de cet organisme-là la semaine prochaine. pour nous parler de la fin de semaine qui va venir à ce moment-là.
Oui, parce que c'est le 8 mai qu'a lieu cette course-là.
Okay.
C'est une course, en fait, c'est pas un phénomène québécois, là. C'est mondial. Et comme je disais, d'année en année, ça, il y en a toujours plus. Au niveau québécois, la course, elle va débuter à 7 heures le matin. Et quand je dis c'est contre soi-même, et c'est pourquoi je voulais vous en parler, Yvan, c'est que c'est intéressant de voir ça. Il faut aller s'inscrire, puis à partir du moment où on est inscrit, on a une heure de départ et on lutte contre soi-même. Et il y a un car, je peux dire ça comme ça, un catch car, qui va démarrer 30 minutes plus tard que nous-mêmes, et quand il nous rattrape, notre course est finie.
Ah, mon Dieu! Puis on peut s'inscrire comment?
On s'inscrit en allant justement sur soit la fondation ou encore sur le site de la course qui malheureusement est en anglais, Wings for Life.
Oui, mais pour ce genre d'affaires-là, je pense que soit qu'on peut se faire aider pour traduire ou quelque chose. Je pense que c'est le mouvement qui est plus important que la langue dans ce cas-là. On pourra toujours quand même faire des pressions pour avoir une version en français. Et la semaine prochaine, oui, on reçoit Moi, Lépinière et Motricité Québec, justement, pour nous raconter leur fin de semaine qui s'en vient dans la prochaine demi-heure. C'est toi, Francine. C'est vous, Francine, qui va parler avec Marcel Dugas.
Je parle avec Marcel Dugas de la sécurité automobile.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Bonjour, M. Dugas. Vous allez bien ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, ça va très bien. Écoutez, ce matin, votre chronique d'histoire, voyons, porte sur la sécurité automobile. Je vous avoue que c'est intriguant. J'ai compris que vous avez fait un petit peu une rétrospective des moyens qui ont été développés au cours des années et que vous avez en plus des statistiques à nous donner sur les décès et sur l'amélioration, peut-être. On ne sait trop. Alors, je vous écoute.
Bien, tout a commencé, comme ça m'arrive souvent, alors que je fouillais dans des vieux journaux, je suis tombé sur une manchette qui m'a sauté aux yeux. C'était dans la presse du 3 septembre 1968. On nous informait du fait qu'il y avait eu 41 décès accidentels au Québec pendant le long congé de la fête du travail, dont 34 dans des accidents de la route. Et on procède ensuite de ça à la longue énumération de toutes les victimes, comment c'est arrivé. Telle personne, 22 ans, habitant rue William-David à Montréal à l'époque, on donnait presque toujours les adresses des gens impliqués dans les faits divers qu'on rapportait dans les journaux. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais on avait un niveau de détail quand même assez poussé. Donc, ce monsieur, 22 ans, telle autre personne, 17 ans, de Saint-Gabriel-de-Brandon, comté de Berthier, se sont tués samedi matin dans une collision de deux autos sur la route 43 près de Saint-Gabriel, et etc. Et ce chiffre de 34 morts sur la route a retenu mon attention. Tout au long des années 1960 et dans les premières années de la décennie 70, on voit le nombre de décès dans des accidents de la circulation augmenter continuellement jusqu'à atteindre un sommet historique. En 1973, il y a eu 2209 décès dans des accidents de la route au Québec, alors qu'on comptait 2 260 000 quelques véhicules immatriculés dans la province. Pour vous donner un point de comparaison, en 2019, on a eu 333 décès au Québec. C'est une baisse spectaculaire, malgré le fait qu'on avait à ce moment-là trois fois plus de véhicules en circulation qu'en 1973. Et on va donc s'intéresser à différentes initiatives qui ont été prises au fil des ans pour essayer de limiter ce nombre d'accidents et ce nombre de décès sur les routes. D'abord, les feux de circulation. On ne s'imagine pas dans un monde, nous qui vivons en 2022, un monde sans feux de circulation. Les premiers feux électriques tels qu'on les connaît aujourd'hui ont été installés à Cleveland, en Ohio, en 1914. C'est un système à deux lumières, une rouge et une verte, qu'on devait actionner manuellement. La lumière jaune est arrivée pour sa part dans les années 1920, en même temps que les systèmes automatisés de changement de lumière. Et c'est dans ces mêmes années 1920, en 1927, pour être plus précis, que Montréal se dote de son premier feu de circulation qui a été installé au terminus de tramway de la rue Craig, situé où se trouve le Palais des Congrès aujourd'hui. C'était un centre nerveux du transport en commun à Montréal. Pendant l'heure de pointe du soir, il y avait 250 tramways qui transitaient par le terminus à chaque heure et on estime que 25 000 piétons entraient ou sortaient du terminus. On a donc installé des feux pour améliorer la sécurité de ce secteur-là. Ils étaient en opération seulement entre 16h30 et 18h30 au départ. Le reste du temps, on jugeait qu'on n'en avait pas besoin. Et le système fonctionnait un peu différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Quand la lumière était verte, les véhicules pouvaient circuler est-ouest sur la rue Craig, qui est Saint-Antoine aujourd'hui. À la lumière orange, on parlait d'orange à ce moment-là et non de jaune, les véhicules arrêtaient sur Craig pour laisser passer la circulation nord-sud. Et à la lumière rouge, là, c'était réservé aux piétons et aux tramways. On a procédé à cette installation-là à peu près au même moment où la ville de Westmount commence à installer des feux de circulation sur son territoire, mais vraiment à des intersections, pas à un point stratégique comme celui-là. Et c'est dans les années 1930 que Montréal va réellement emboîter le pas après avoir vu que ça fonctionnait à Westmount.
Monsieur Dugas, avant qu'on installe tous ces feux de circulation, on fonctionnait comment? Parce que c'est pas arrivé tout d'un coup comme ça là, qu'il y avait autant de circulation, de tramway, etc. autour des points névralgiques.
Mais il y avait des arrêts obligatoires à certains endroits. Mais en général, c'était surtout le, vous me permettrez l'expression, c'était surtout au plus fort la poche, là, la personne qui passe. Et on disait qu'on avait choisi cet endroit-là, ce terminus-là, parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents à cet endroit-là, notamment la cohabitation de tous les piétons qui cherchaient à se rendre au terminus, l'arrivée des... Bon, quand on parle de 250 tramways à l'heure, évidemment, c'est une circulation imposante. Et même là, ça prenait quand même deux personnes pour opérer le feu de circulation et un chef de gare pour marquer la sortie des tramways avec une cloche. Donc, on voyait que c'était vraiment un endroit où il se passait beaucoup de choses et on avait vraiment besoin d'améliorer la sécurité à cet endroit-là. Dans les années donc 1920-1930, on va aussi grandement améliorer la signalétique sur les routes provinciales, entre autres, donc en dehors des villes et des villages. On va instaurer des arrêts obligatoires au passage à niveau. Ça n'existait pas nécessairement avant ça. Et il y avait beaucoup de trains en circulation à l'époque et les collisions au passage à niveau étaient fréquentes et ça avait souvent des conséquences dramatiques pour les occupants de la voiture. Et toujours sur les routes provinciales, en 1933, on annonce que partout où la nature du pavage le permettait, on traçait une large ligne blanche au centre des courbes pour inciter les automobilistes à garder la droite aux endroits où cette pratique est la plus nécessaire. Encore une fois, on imagine mal aujourd'hui une route à deux voies sans ligne de démarcation au centre. Ça non plus, ça n'allait pas de soi et ça existait à certains endroits comme au Royaume-Uni depuis les années 1910. On n'a pas été très rapide à ce chapitre-là. On ne pouvait pas en mettre, évidemment, sur les nombreuses routes de gravier, de terre qu'on avait à ce moment-là. Donc, c'était une mesure de sécurité, mais qui était quand même partielle. Donc, il y a des améliorations qui sont apportées. La sécurité routière, ça demeure un grave problème. En 1940, on a dénombré 446 victimes sur les routes du Québec, donc plus que ce qu'on a aujourd'hui, même si on comptait à peine 7 voitures par tranche de 100 habitants à l'époque contre 75 ou 80 par 100 de nos jours. Donc, améliorer la signalétique, c'est bien. Très souvent, c'était le véhicule lui-même qui faisait problème et ça a été un processus que de rendre les voitures plus sécuritaires. En 1938, on brevette une nouvelle invention, les clignotants pour les voitures. Avant ça, très souvent, on indiquait notre intention de tourner avec le bras, comme le font les cyclistes.
C'est ça, comme les cyclistes. Là là.
Mais souvent, on ne faisait aussi que tourner, et c'était aux autres automobilistes ou aux piétons, ou peu importe, de deviner nos intentions. Mais ça prendra quand même un certain temps avant que ça se retrouve de série dans tous les modèles de tous les fabricants. Ce qui fait que vous lisez des journaux dans les années 1950 à l'approche de Noël et on voit des publicités. Le cadeau parfait pour un ou une propriétaire d'automobile, offrez-lui des clignotants électriques ou des rétroviseurs. Ça non plus, c'était pas offert par toutes les compagnies à ce moment-là. Autre grande innovation dans les voitures, la ceinture de sécurité. Ceux qui sont un peu moins jeunes vont se rappeler les débats interminables sur le port de la ceinture de sécurité. Au départ, c'était seulement à l'avant, puis ça a été étendu à tous les passagers. Dans les années 1950, quand la compagnie Ford a commencé à offrir des ceintures en option sur ses modèles, il y a seulement 2% des acheteurs qui se prévalaient de l'option d'en faire installer. Les Européens ont été plus rapides que les Américains. En 1958, Saab, constructeur suédois, a commencé à pourvoir tous ses véhicules de ceintures de sécurité. Mais avoir des ceintures dans sa voiture, c'est une chose. encore faut-il l'utiliser, en fait. L'État de Victoria, en Australie, a passé la première loi rendant obligatoire le port de la ceinture en 1970, et en 72, l'obligation avait été étendue à l'ensemble du pays. Et chez nous, au Québec, ben, ça date de 1976, mais seulement pour les gens sur la banquette avant. Quand on regarde les courriers du lecteur des journaux de 1976, c'est rempli de « on ne vit plus en démocratie, c'est la dictature ». Derrière la ceinture de sécurité se cache la mort de nos libertés individuelles fondamentales. Ouais, ouais. Bref, cette idée-là de la pente glissante vers la dictature qu'on entend fréquemment de nos jours, ça ne date pas d'hier qu'on utilise ça. Et ce n'était pas la première fois non plus que le gouvernement empiétait sur nos libertés individuelles dans le domaine de la conduite automobile. Depuis 1952, il faut réussir un examen de conduite pour obtenir un permis de conduire. Ça n'existait pas avant. Jusque-là, on se présentait chez un représentant autorisé. Ça coûtait 2,50 $ et on avait un permis de conduire. C'est très contraignant de passer un examen. On a aussi restreint la liberté des automobilistes de conduire avec une bière entre les genoux, n'est-ce pas?
Ah,
la fameuse caisse de 24 sur le siège du passager. Même si on ne l'a pas fait nous-mêmes, on a tous entendu des histoires comme celle-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool au volant, ça a toujours été un problème. En 1925, il y a eu un rapport de fait. On disait que la vitesse excessive était la principale cause d'accident au Québec, mais que la conduite avec faculté affaiblie arrivait bonne deuxième et était responsable de 25% des accidents de la route. Et dès ce moment-là, c'était déjà illégal. C'est inscrit au Code criminel du Canada depuis 1921 et ça s'accompagnait à ce moment-là d'une peine minimale de 16 jours de prison pour une première offense. Le problème, c'est qu'on ne disposait pas d'un standard universel. Essentiellement, c'était le jugement du policier qui comptait. Est-ce que la personne avait l'air ivre? C'était pas facile à prouver devant un tribunal. C'est à la fin des années 1960 qu'on a amendé le code criminel et instauré le fameux .08 et ajouté l'obligation pour un conducteur de se soumettre à un alcootest. Et donc, le standard n'a pas bougé depuis plus d'un demi-siècle et on est franchement un peu dépassé. Dans la plupart des pays, en Europe entre autres, on est à 0,05 d'alcool, parfois moins. Ceci dit, je veux terminer là-dessus. Il y a une constante depuis qu'on tient des statistiques à ce sujet-là. Il y a plus d'hommes que de femmes qui décèdent dans des accidents de la route. À certaines périodes, on dépassait le 3 hommes pour une femme. L'écart tend à se rétrécir. Selon les chiffres que j'ai pu voir de 2018, on se rapproche du 2 pour 1. Mais il y a plus de morts que de mortes sur nos routes. C'était vrai en 1930 et ce l'est encore aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Alors, on voit que l'évolution de la sécurité a quand même eu des bons effets, mais qu'il reste encore du travail à faire.
Absolument.
Alors, merci et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est bon l'Amérique.
Bumper à Bumper, c'était Martin Léon qui chantait.
Oh, que je l'aime, Martin Léon.
Ben, c'est à lui.
OK. Ben, on prend des notes pour le vendredi prochain parce que il devrait être un de nos réguliers.
Tout à fait d'accord.
D'accord. On se tourne vers l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Et là, on prépare la fin de semaine et peut-être même plus large, je ne sais pas, ce que Jocelyne Richard, qui est la présidente directrice générale de l'organisme, va nous raconter. Bonjour, Jocelyne.
Bien, bonjour.
Alors, comment on prépare notre fin de semaine? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour l'association lors des deux prochains jours, samedi puis dimanche?
Oui, pas mal d'événements. Demain, c'est la visite du quartier de la rue Notre-Dame. Alors, on a une fidèle bénévole qui s'appelle Marisol Italien.
Oui.
Qui va nous raconter l'histoire de la naissance de la rue Notre-Dame. Là, je ne me rappelle pas, mais elle portait un autre nom que la rue Notre-Dame. C'est plus tard dans l'historique qu'elle est devenue la rue Notre-Dame.
OK. Puis la rue Notre-Dame est quand même très longue. Y a-t-il un endroit en particulier?
Oui, bien, on va partir du Palais des Congrès. Mm-hmm. Et on va s'en aller vers l'ouest, vers le canal Lachine.
OK. Oh, c'est une très jolie marche, ça. Oui.
Oui. Mais nos membres... sont habitués de marcher. Là. Voyez-vous, le point de rencontre est à 9h30 le matin.
Okay.
Et puis, il est prévu qu'on dîne dans un resto qui a déjà été choisi et qui a déjà été réservé.
Okay.
Et puis, on revient au même endroit parce qu'on a des gens qui sont en transport adapté.
Mm-hmm.
Alors, on revient pour 3h15. Alors, je les ai tout écrit hier.
Oui, je connais le système.
Vous connaissez le système, hein? Oui. Alors, c'est ça. Alors, ils ont tous reçu un courriel en leur disant « N'oubliez pas de vous habiller chaudement parce que le printemps se laisse désirer. »
Ah, mon Dieu, oui, je pense qu'il a pas reçu le mémo le printemps. Il ne sait pas, hein?
Non. Ben quoi qu'aujourd'hui, c'est beau, par exemple. Apparemment que c'est demain la plus belle des journées.
Oui, effectivement.
Alors, j'écris dans mon courriel « Ben, si c'est bon pour nous autres, on le méritait. » Alors, ça, c'est l'activité de demain.
Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ne sont pas inscrits, est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire?
Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire.
D'accord. Alors,
s'il y a des membres qui nous écoutent, ils ont juste à téléphoner ou à écrire à info@asamm.ca.
OK. Et puis, je pense que dimanche, on joue au soccer.
Oui, dimanche, il y a deux activités.
OK.
Il y a soccer sonore. On a loué une partie du gymnase on dit-tu Cégep Maisonneuve ou Collège Maisonneuve?
C'est pas mal la même place.
Oui, c'est ça, mais pour la facturation, ça a l'air, on ne dit pas le même mot.
Bon, OK. Ça, c'est de l'administration interne, ça, c'est correct.
Oui, c'est ça. Mais les gens sont très contents parce que c'est à côté du métro...
C'est Pineuf.
Pineuf, oui. Oui, c'est ça. Alors, on a quand même des membres qui sont assez forts, je vous dirais, parce qu'ils en ont déjà fait précédemment.
Okay.
Mais s'il y avait des membres qui nous entendent puis qui voudraient vivre l'expérience même un qu'une fois,
oui.
il y a de la place. Ça aussi, il faut qu'ils s'adressent à chez nous à info@sam.ca. Je peux quand même redonner le numéro de téléphone parce que même si je ne suis pas au bureau, on prend toujours les messages à distance. On ne perd pas de temps là-dessus. Alors, c'est dans le 514-322-1834.
Oui, et notre...
Attends une minute, je ne donne pas le bon numéro en plus.
En plus, OK. En plus. Donc, 514...
524-4715.
524-4715.
Oui, c'est ça.
Et notre salle des nouvelles nous dit que c'est le collège de Maisonneuve qu'il faut dire.
Oui, c'est ça, hein? Alors, voilà. Alors, cette activité-là, elle a commencé le 20 mars, puis elle se termine le 29 mai. Et puis, probablement, si on réussit à faire une équipe avec un petit peu plus de personnes disponibles, on va recommencer cette activité-là cet automne.
Ah, OK. Ben, j'ai vu sur YouTube comment ça se jouait. Là. C'est pas évident. C'est vraiment un sport. Là.
Oui. Mais comme je vous dis, ça se fait avec un ballon sonore.
Mm-hmm.
Alors, les personnes qui ont même une vision partielle sont obligées de porter un bandeau.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors, des fois, ça triche.
OK. Alors,
des fois, ça triche.
Je ne savais pas qu'on pouvait tricher au soccer sonore. Mais là, c'est une nouvelle, celle-là.
Ça triche. Mais okay. c'est pas grave, c'est un jeu là, pour commencer. Les gens, le temps de se pratiquer, c'est quelque chose d'apprendre quand même à identifier la trajectoire d'un ballon sonore.
Oui, tout à fait.
Alors moi, je me dis, garde. Au début, c'est là pour s'amuser, il ne faut pas se prendre au sérieux. Si un jour, on en arrive qu'il y en a qui veulent participer à un sport d'équipe et puis de compétition, on verra à ça. Mais dans le moment, on va commencer tout bas, puis les gens vont se pratiquer, puis les gens vont développer des compétences.
Parfait.
Ceux qui trichent, bien, peut-être à la longue, ils tricheront moins.
On est loin des Paralympiques et c'est parfait comme ça.
C'est correct, c'est ça.
Une dernière activité?
La dernière activité, c'est une nouveauté chez nous. Ça s'appelle un cours d'autodéfense.
Ah oui?
Qui va commencer dans l'après-midi de cette journée-là ailleurs, qui va être au monastère, là où nous avons des locaux qu'on est heureux d'y vivre.
Okay.
Ça s'appelle le centre communautaire du monastère.
C'est à quel endroit, ça?
Comment?
À quel endroit, à Montréal?
Ça, c'est sur la rue... Ben, y a, l'adresse civique, c'est 4450 rue Saint-Hubert.
Parfait. OK. Ah, oh, c'est pas loin de vos bureaux?
Oui, bien, c'est dans nos bureaux, en réalité.
OK.
C'est juste parce que ça, c'est l'adresse civique, mais souvent, les gens entrent par la rue Berry.
OK.
C'est l'enfer aller au monastère de Saint-Cy, pas parce que c'est le monastère qui est en enfer, mais c'est la construction autour du métro Mont-Royal qui est problématique.
OK, je comprends, parce qu'un monastère en enfer, c'est quand même assez spécial.
Oui, ça, c'est dangereux, ça.
Donc, soyons un peu sérieux, on fait de l'autodéfense.
Oui, on va apprendre à faire ça. Pour certaines personnes, je pense que c'est important de développer de la confiance, d'apprendre un peu à se protéger, puis... C'est ça. Et puis, de pouvoir obtenir plus de sécurité. Alors, pour certaines personnes, ça l'apparaît comme quelque chose, un besoin. Alors, c'est ça.
Excellent. Ben, c'est des belles suggestions pour la fin de semaine, chère Jocelyne. J'ai de la misère à vous voyez.
Je m'excuse. Oui, c'est ça. D'habitude, quand on est en privé avec nos tandems et compagnie,
oui, c'est ça. Quand on a roulé ensemble en tandem, c'est difficile de vous voyez la personne.
C'est ça.
Alors, on se reparle dans un mois. Pour une autre fin de semaine.
C'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup.
Merci.
Et passez une belle fin de semaine à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Le ciel est trop noir, qu'une grande toile voile les étoiles. Doucement mon corps s'apaise et s'endort pendant que je rêve au jour qui se lève.
Saint-Pierre qui chantait « Jour doré ».
Merci Mathieu. Écoutez, Yvan, on est presque rendu à la fin.
C'est...
J'ai rien vu passer. Est-ce croyable?
Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure et demie?
Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi je suis presque rendu au week-end. Alors
oui.
Je vais vous dire ce que je vais surveiller
Allez-y.
Ce week-end. Ben, je vous dirais que je vais être pas mal dans un bain artistique. Je vous parle d'abord de Lucie Jolicoeur. Lucie Jolicoeur, c'est une graveuse montréalaise qui fête ses 90 ans. Et ce qui est bien intéressant, c'est que pour son anniversaire, je vais vous dire, elle a organisé une exposition de ses œuvres des 20 dernières années. Et ça va avoir lieu, ça a lieu, en fait, jusqu'au 7 mai. Donc, faut se dépêcher.
Donc, ces 20 dernières années, ça veut dire entre l'âge de 70 ans et 90
oui.
ans.
Ah oui, ah oui.
Donc, il y a de l'espoir pour nous deux, là.
Ah, il y a de l'espoir. Puis, je peux vous dire, du côté des artistes, il y en a plusieurs, des grands artistes qui continuent, justement, d'exposer okay. et qui ont cet âge vénérable. Cette exposition a lieu au Pirroir. C'est au 5333 Avenue Cassegrain. Et donc, je vous invite à y aller. Et évidemment, c'est gratuit. Une autre exposition gratuite, exposition, mais en même temps, musique, etc., c'est Bébé symphonique, quand la musique fait grandir. Alors, on se rappelle de Bébé symphonique, les concerts qui ont été organisés par l'OSM. Et bien oui, c'est ça, on a le calendrier derrière nous. Alors, ça continue, ça présente des faits scientifiques. Comment ça, finalement, ça interagit sur les poupons, comment aussi ça permet d'apporter un développement intéressant. Alors, ça se passe, entre autres, dans le salon urbain de la Place des Arts, où, justement, il y a comme un lieu d'exposition qui est installé là. Alors, moi, donc, je me concentre sur des activités artistiques. Je trouve que ça fait du bien. Mais il y en a d'autres qui aiment ça, travailler tout le temps. Et c'est votre cas, Yvan. Non, c'est pas, vous travaillez pas parce que là, vous embarquez dans quelque chose de... Bien, de quelque chose d'interpellant, bon, je dirais.
C'est vrai que j'aime beaucoup, je travaille beaucoup dans des élections de tout ordre, mais celle-là, j'y travaille pas, mais je vais regarder les résultats. C'est dimanche, le deuxième tour des présidentielles françaises.
Oui, mais nos Français votent demain.
Oui, c'est vrai.
N'oubliez pas.
Et
n'oubliez pas.
Je pense qu'on a eu d'un témoin d'il y a deux semaines que... La fonction d'aller voter, c'est pas si simple que ça, hein?
C'était, semble-t-il, quelque chose à voir, des rassemblements avec des queues interminables et, je dois dire, des Français un peu mécontents.
Mais ça, c'est pas naturel.
Mais là, c'est... Ah, oh, moi, je me prononce pas là-dessus. C'est une rumeur qu'on m'a rapportée.
C'est une rumeur. Oui. OK. On va laisser ça en termes de rumeur. Je vous dis, par contre, que présentement, Emmanuel Macron, selon les derniers sondages, aurait 56,5% des intentions de vote et Marine Le Pen en aurait 43,5%. Je vous rappelle que tout de suite après le premier tour, c'était 53-47%, donc après le débat de cette semaine, ça a évolué un petit peu. Regardez sur votre télévision, à la radio, tout ça, il y a toutes sortes d'émissions spéciales, des émissions spéciales ES, qui vont avoir lieu à partir de midi dimanche. La beauté des élections en Europe, c'est que c'est dans une belle heure pour nous autres. Hey Francine, on est rendu au bout.
Alors, est-ce que vous revenez la semaine prochaine?
Ah oui, moi je reviens. Et vous?
Ah oui, 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 oui.
Tout à fait.
Oui. C'est décidé.
On remercie évidemment Mathieu, l'autre bord de la console, qui nous a enduré.
Mathieu qui rime avec Dieu aujourd'hui. C'est presque
proche.
Ça, hein?
Et parlant de Dieu et de déesse, il y a Hélène qui nous a regardé de chez elle.
Mais son aura est là.
Et
là.
Qui nous a beaucoup inspiré pour la mise au point de notre feuille de route d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à midi aujourd'hui, ce sont les passions de Camille avec Camille Chai qui va nous parler d'une personne de passion. Et on se revoit, nous, lundi, parce que je remplace Hélène Denis. Et nous deux, on se revoit la semaine prochaine.
Vendredi.